commence un livre dès la première page. Je fais connaissance avec des personnages. Je m'embarque avec eux dans de drôles d'aventures, passé, présent et parfois même futur. Un livre ça délivre, ça détend et ça rend ivre. Plongé dans un bouquin, ça change et ça fait du bien. Fini les galères, fini les misères. J'oublie mes soucis, j'oublie même qui je suis. Et d'un seul coup.
Bonjour, un livre, oui mais quel livre? Avec l'Oiseau des Lires, nous sommes là pour vous présenter nos coups de cœur et nos envies. Alors aujourd'hui, je change de style, on évite les romans ados. Et comme d'hab, ça commence avec un coup de cœur qui vient d'arriver et du coup je suis parti un peu dans l'idée. Donc c'est en fait le détournement de conte pour grands. C'est-à-dire comment on parle de conte moins classique ou en utilisant les règles classiques du conte, mais au grand. Et ça commence bien sûr avec mon coup de cœur, du coup, La Belle et le Fuseau. Bon, de Neil Gaiman. Ok, je sais, j'ai un peu triché, c'est encore du Neil Gaiman. Illustré par Chris Riddell. Alors Neil Gaiman, c'est un auteur que, bon bah maintenant vous savez je crois, j'affectionne énormément, c'est chez Albin Michel et c'est quelqu'un que je respecte énormément déjà en tant qu'auteur adulte et jeunesse. Et c'est quelqu'un qui maîtrise énormément bien son sujet. Surtout quand il fait des choses un peu bizarres. Et là c'est du fantastique à la Neil Gaiman, tout en étant les règles du conte. Une jeune princesse, qui ressemble à une Blanche-Neige d'ailleurs, puisqu'elle vient de se réveiller d'un sommeil magique, doit se marier. Elle n'est pas forcément fan, mais bon, ça fait partie du rôle qu'elle doit avoir. Et des nains sous une montagne qui partent chercher de la soie pour elle, de la belle soie pour son mariage. Et ils arrivent dans un pays désolé, un pays qu'ils connaissaient bien, mais un pays désolé, ravagé par une maladie étrange, tout le monde s'est endormi sur place. Et il apparaîtrait qu'une sorcière a endormi la princesse, elle aussi avec un fuseau, donc, qu'un fuseau pour tisser la soie. Et tout le royaume plonge petit à petit dans ce sommeil magique. Et les nains étant des créatures magiques, sont moins sensibles. Et ils vont voir la princesse pour lui dire, et la princesse fait, bah, de toute façon, moi, puisque j'ai déjà survécu un sommeil magique, vous allez m'aider et on va y aller. Et c'est parti. Et on suit exactement les règles du conte, c'est-à-dire le côté un peu magique, la barrière de ronces, de roses, et cette personne qui est restée réveillée, qui serait la sorcière. Mais quand c'est du Neil Gaiman, c'est un peu différent. C'est peut-être pas la sorcière qui s'est endormie. Peut-être que c'est la princesse qui est encore debout et c'est la sorcière qui a endormi le royaume pour régénérer sa vie. Voilà, c'est du Neil Gaiman, c'est du fantastique. En même temps, il y a toutes les règles de ce conte, justement, un conte un peu tordu, hein, bien sûr. Parce que voilà, c'est du Neil Gaiman. Et on a tout ce côté fantastique que j'aime beaucoup chez lui. En même temps, on a les règles du conte avec les princesses, les princes, les nains. On a vraiment ce côté conte, magie, le fuseau. Et c'est beau, c'est fort, on a envie de voir la suite. Chris Riddell, à l'illustration, c'est quelqu'un donc, qui a fait des choses chez Milan, à la base. Donc c'est des illustrations assez particulières, en un sens. Là, c'est du noir et blanc, souvent. Noir et blanc et or, en fait. Mais avec des grands paysages, des grands visages. Et c'est très, très réaliste. C'est très, très, très beau. Seuls les nains ont une espèce de flamèche d'or sur la tête. Et on va suivre comme ça cette aventure au milieu de ce royaume, dans un sommeil profond. Des gens qui sont arrêtés en plein milieu du chemin et qu'il y a étoiles d'araignée qui poussent. C'est un très très bel album, un conte pour grands du coup, bien sûr, forcément. Un conte pour ados. Et très bien illustré, honnêtement, un très très grand coup de cœur. Et un roman, chez Didier Jeunesse. Pierre Delis, Caprice, c'est fini. Non mais, illustré par Albertine comme roman. Caprice, c'est fini. Pierre Delis, un grand conteur, très très grand conteur du coup. Très connu pour ses albums surtout, hein, finalement. Donc beaucoup d'albums chez Didier Jeunesse. Et dans Caprice, c'est fini, et ben c'est pareil. On va suivre le conte, sauf que là on est plus sur de la comédie romantique pour ados. Et c'est très drôle puisqu'on suit exactement le principe des contes avec cette princesse qui est horrible. Elle fait que des caprices. On n'en peut plus. Elle fait vraiment que des caprices. Le roi n'en peut plus. Et du coup, il décide de trouver une idée. Il va la marier. Bon, elle n'est pas d'accord, mais le roi a une idée. C'est que comme personne ne peut se marier avec sa fille puisqu'il faut trouver, faut répondre à une énigme assez insoluble, faut l'avouer, mais par contre, elle sera occupée à écouter les prétendants. Et du coup, on est tranquille. Jusqu'au jour où arrive Jean, un petit bûcheron, qui, grâce à une rencontre dans la forêt, a récupéré 3 poils de barbe d'un vieux décrépit, des poils magiques, qui vont l'aider à résoudre déjà la première énigme et ensuite les autres épreuves. Et là, c'est le moment du mariage. Eh ben non, il veut pas, il veut lui imposer des épreuves aussi à la princesse. Voilà, on suit exactement le principe du conte avec le principe des trois épreuves, ou des trois poils, les trois épreuves, la magie, qui est aussi dans les règles du conte. Il n'y a qu'à voir certains contes qui fonctionnent avec les forêts à traverser et le reste. Donc c'est vraiment un conte, sauf que c'est une comédie romantique, c'est léger, c'est drôle. C'est tout à fait très sympa, c'est super marrant en fait à lire, c'est détendant. C'est vraiment quelque chose d'assez agréable. Et j'aime beaucoup le talent, parce que Pierre Delisle, qui nous on le connaît en tant que conteur, surtout à la librairie, et puis pour les gens surtout, c'est un conteur. Là, nous prouve que même en roman, bah, il arrive à faire quelque chose de très fort, puisqu'il y a quand même une petite morale, bien sûr, à la fin. Enfin, une morale, c'est pas tout à fait une morale, mais il y a une réflexion quand même, tout au long du roman. Et il y a des réflexions tout au long du roman, il y a de l'humour, il y a des personnages tordants, il y a des personnages un peu atypiques, il y a le grand chambellan notamment, il y a pas mal de personnages comme ça, il y a le roi, il y a le père de Jean, bien sûr, le petit vieux qui est juste génial aussi au début du roman. Donc voilà, plein de personnages qu'on croise comme ça dans cette espèce de comédie romantique, dans ce bal humain. Et voilà, Pierre Delisle nous prouve que même quand il s'agit de roman, bah, finalement ses talents de conteur sont pas à négliger et ses talents de romancier non plus. Excusez-moi. Et alors le troisième, j'ai triché aussi. Encore une fois, je triche. Je prends que des gens que j'aime. C'est fou, hein, c'est bizarre. C'est La Petite Fille en Rouge chez Gallimard Jeunesse. C'est l'histoire et l'illustration sont de Roberto Innocenti, un peintre italien que je vénère, mais que j'adore en fait ce qu'il fait. Je suis fan, je suis horriblement fan. Et le texte est d'Aaron Frisch. Donc La Petite Fille en Rouge, comme vous vous en doutez, ce sera certainement notre petit chaperon rouge. Mais ce petit chaperon rouge vit dans un monde très actuel, si je puis dire, puisqu'il vit dans la ville. Et dans cette ville, on est sur un monde très urbain. C'est très urbain. Et tout dans l'illustration de Roberto Innocenti, dans ses grandes peintures, montre la sexualisation des publicités, la violence des villes, en fait. Et ce petit chaperon rouge est la seule, en fait, un peu au milieu de cette ville... un peu immaculée, quoi. On la voit qui passe à côté de policiers, à côté d'une scène de crime, de supporters en colère, de mendiants, de tags. Il y a les tags partout, assez sales d'ailleurs. En général, ils sont pas très beaux. Il y a la culture du corps aussi, bien sûr, avec les aftershaves Brutus, les marques de voitures, les mascaras. Le magasin de jouets est peuplé de jouets super violents, de jouets durs, de jouets assez sexualisés aussi par rapport aux femmes. Et c'est le seul petit personnage qui a l'air d'errer. Elle arrive dans la cité et elle croise le grand méchant loup. Ce grand méchant loup, c'est pas tout à fait un méchant loup cette fois-ci. C'est un chasseur qui fait fuir des hyènes au départ et qui l'emmène, qui va l'emmener voir sa mère grand. Ou pas. Mais peut-être que cette fois-ci, le grand méchant loup, ce sera le chasseur. Ce sera pas les hyènes qu'on a croisées. C'est magnifique. C'est très très beau, c'est très très dur en fait. C'est très très actuel aussi, je trouve. Et les peintures de Roberto Innocenti montrent une image assez, assez brutale de la ville, assez dure, assez violente. On voit les calandres des voitures qui ressemblent à des bouches, à des mâchoires énormes qui veulent mordre. Tout autour est agressif et elle est là au milieu un peu immaculée. C'est très étrange. C'est vraiment un magnifique album. C'est dur d'en parler comme ça en fait des illustrations parce qu'il faut vraiment les voir parfois pour comprendre en fait comment il a réussi à mettre un tel univers en fait dans son album. Le texte est très propre d'Aaron Frisch d'ailleurs, hein, même si l'histoire était à la base de Roberto Innocenti, le texte a été fait par Aaron Frisch, un auteur. Et le texte est très bien hein, d'ailleurs, rien à dire sur le texte aussi, mais c'est vrai que toutes les illustrations montrent une violence permanente, en fait, une agression permanente vis-à-vis des oreilles, des sons. On a l'impression vraiment que tout est bruyant autour d'elle. C'est vraiment une très très belle histoire, très dure, mais il a vraiment fait quelque chose de très très beau. Et puis il y a une deuxième fin en plus, parce que c'est ça qui est bien dans les contes, c'est que les fins parfois peuvent être tristes, mais parfois elles peuvent être belles. Et comme j'ai du temps, j'en profite. L'Auberge de nulle part. Oui, c'est mon dernier, en fait. Ah, je vous ai menti. Toujours chez Gallimard. Et bizarrement, toujours de Roberto Innocenti. Dis donc, c'est fou, hein? Sur un texte de J. Patrick Lewis. Alors, L'Auberge de nulle part, c'est très, 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 très vieux. Ça a été ressorti, fort heureusement, ça a été réédité il y a quelques temps maintenant. Et C'est une histoire assez particulière. Alors, c'est pas tout à fait du... Là, on s'éloigne un peu du détournement de compte, même si on y est quand même, après tout, hein, parce que du coup, c'était en 2002, la première édition. Donc, même si on y est quand même, puisque c'est l'histoire d'un peintre. Un peintre, il a perdu inspiration. Il perd inspiration, il n'arrive pas. Il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien, donc il décide de partir. Il décide de prendre l'air un peu parce que, après tout, ça sert à ça aussi. Parfois, pour retrouver inspiration, il faut voyager un peu, il faut sortir un peu. Alors, il s'en va. Il prend la route. Et il va arriver à cette auberge, l'auberge de nulle part. Et dans l'auberge de nulle part, on a plein de personnages. Et c'est là qu'on parle des contes, d'ailleurs, puisqu'on va croiser plein de personnages, d'ailleurs. Qui ne seront jamais nommés. Ils sont nommés qu'à la fin, en fait. Ce qui est très bien, puisque du coup, on les voit vivre, en fait. Parce que dans ces personnages, on va croiser qui ? On va croiser le baron perché, au sommet de son arbre. On va croiser un auteur de polar, qui aimerait arrêter d'écrire du polar en noir et blanc, et qui voudrait écrire de la couleur. Un perroquet qui fait l'accueil. Une jeune fille qui est toujours en fauteuil roulant, et qui ressemble bizarrement à la petite princesse, surtout quand elle se baigne la nuit. On a un homme qui cherche un trésor. On a un autre qui cherche sa Moby Dick. On va croiser un aviateur aussi, qui va se paumer à un moment. Saint-Exupéry, certainement. On croise tous ces personnages dans cette auberge, mais énormément. Et tellement plus, en fait, puisqu'on croise aussi Tom Sawyer, si je ne me trompe pas, Hercule Poirot, je ne sais plus qui encore. Énormément de personnages. Tout le monde. Et quand il repart, il a retrouvé l'inspiration. Finalement, ouais. C'est pas très dur, l'inspiration. Il faut aller la chercher parfois dans les livres, parfois ailleurs. C'est magnifique, les illustrations et les peintures. On va croiser le Cid. Je l'avais oublié, le Cid aussi. Et toutes ces peintures sont magnifiques. Elles donnent envie de voyager. Et vraiment, quand j'ai fini ce livre, la première fois, c'était il y a, je sais plus, 10 ans, 12 ans, j'en sais rien. 10 ans peut-être, 10 ans que j'ai lu ce livre. Quand il était sorti. Et qu'est-ce qu'il était beau, qu'est-ce qu'il est beau. Il donne envie de voyager, il donne envie de partir, il donne envie d'aller lire nos grands classiques, d'aller au bord de la mer. Il donne plein de choses. Il est vraiment magnifique et c'est quand même dans mon thème, puisque finalement, on va parler de grands personnages, de gens des contes. Et là, avec ce texte, honnêtement, il avait... le texte de J. Patrick Lewis était magnifique, d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé le texte de Patrick Lewis, qui est vraiment plein de poésie en même temps. On voit Tom Sawyer, Huckleberry Finn aussi, bien sûr. Et les peintures de Roberto Innocenti, qui nous parlent de la mer, qui nous parlent de ces gens. Et les descriptions sont très bien faites dans le livre, et du coup, les illustrations à côté apportent tellement un univers derrière. Enfin voilà, Roberto Innocenti est quelqu'un que j'adore, que vous ne le sauriez pas maintenant. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, parce que je trouve que toutes c'est des peintures ce qu'il fait, c'est des grandes illustrations, des grandes peintures. Et c'est quelqu'un qui nous prouve qu'à chaque fois il arrive à faire quelque chose d'encore différent et d'encore plus joli, si je puis dire. Même si là on avait avant une ville assez bruyante, assez sombre, assez dure. Là on passe sur des grands paysages, sur des personnages classiques, si je puis dire, avec des représentations très classiques, mais tellement visibles. Donc ça, voilà. Donc voilà, là j'ai fini pour aujourd'hui. Ça c'était le détournement de compte des grands, donc avec l'auberge de nulle part, la petite fille en rouge, la belle et le fuseau que j'aime beaucoup aussi, Neil Gaiman. Un Neil Gaiman Roberto Innocenti, ce serait beau. Donc il me reste plus qu'à vous remercier. N'oubliez pas, les livres s'empruntent en médiathèque et s'achètent en librairie. Bonne semaine à vous.
Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini. Si petit, un livre quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit.